Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel puisque nous enregistrons à Lyon au sortir de la BotConf. Nous allons discuter donc avec Eric Fraissinet qui est l'organisateur de cette conférence.
Le président du comité d'organisation, bonjour.
Bonjour Eric. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Vladimir Collat.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Salut.
Xavier Mertens.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour.
Alors Eric, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur la BotConf?
Oui, donc c'est une conférence qu'on organise depuis 4 ans en France sur le sujet de la lutte contre les botnets et dont l'objectif est de rassembler tous ceux qui dans le monde luttent, dans le monde académique, du côté des forces de police et du côté du monde industriel contre les botnets, que ce soit sous l'angle de la compréhension, de la détection, de l'investigation ou du démantèlement des botnets, donc sous tous les angles. Et c'est une conférence scientifique, parce qu'il y a certains intervenants qui ont un profil académique et qui viennent donner un regard plus systématique, scientifique aux choses. Technique du monde de la sécurité et parfois aussi du point de vue du droit, par exemple, ou de la criminologie.
Alors, quelques chiffres.
Alors, cette année, on était 325 participants au total sur 4 jours, puisqu'il y a une nouveauté cette année avec des ateliers techniques, hein, le premier jour, puis 3 jours de conférence, 25 exposés au cours des 3 jours de conférence. Et par exemple, on pourrait citer les 48 papiers propositions qu'on a eu en amont de la conférence pour pouvoir préparer tout ça. Et puis, c'est une année complète de préparation. On est déjà en train de travailler sur l'année prochaine.
Alors, Vlad, quelles sont les thématiques qui ont été abordées?
Alors, pas mal de conférences sur les malwares et les botnets de criminels. Une seule conférence sur les DGA, les fameux générateurs de noms de domaine. Alors que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de conférences sur le sujet. Je pense que cette année, il y a eu un mot d'ordre, non, pour en faire un peu moins ou...
Non, pas du tout. On respecte assez bien les tendances, je pense, de ce qui est proposé. Ça évolue avec l'air du temps.
Ok, et puis ensuite aussi pas mal de retours d'expérience sur des botnets et en particulier un sur des enquêtes et l'arrestation du réseau Avalanche.
Alors, messieurs, quelles sont les conférences qui vous ont marqué?
Alors, moi j'ai bien aimé la conférence qui était la suite, un petit peu la prolongation de l'explication du botnet Moose, qui avait été déjà donné en 2015. Et donc, il y a eu de nouveau un papier là-dessus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était la combinaison du côté technique. Et donc, il y a eu une explication donc, classique, comment fonctionne le botnet, les technologies qui sont derrière. Et ensuite, il y a une partie qui est plus sociale, où ils ont analysé quels étaient les profils des gens qui utilisaient le botnet pour s'acheter des followers supplémentaires, acheter des clics, etc. Avec pas mal de statistiques, du style, quel est le type de chanteur qui est le plus à même d'être recherché, qui va générer le plus de clics, ou quels sont les profils des pseudo-vedettes, entre guillemets, qui cherchent à améliorer leur profil, etc. J'ai vraiment bien aimé cette conférence. Et la deuxième était une conférence plutôt défensive. Donc c'était hier après-midi, c'était Tom qui a fait ça, où il a vraiment expliqué, mais avec des exemples concrets, comment récupérer des event Windows, donc via Sysmon, les incorporer dans Splunk. Donc, désolé de citer la marque, mais on pourrait remplacer Splunk par autre chose, par n'importe quel produit de log management. Et vraiment des exemples concrets avec les queries à réaliser, etc., pour pouvoir ressortir des informations pertinentes afin de traquer les postes infectés sur un réseau d'entreprise, par exemple.
Jeff ?
Alors moi... Déjà, je trouve que les conférences de cette année étaient assez équilibrées. Il n'y avait pas une grande thématique DGA comme l'année dernière et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Il y en a eu pour tout le monde. Ce que j'ai retenu, c'est que ce soit entre les attachements malicieux qui arrivent via messagerie ou les prises de contrôle via le drive-by download au niveau des navigateurs, bah, dans les deux cas, c'est l'utilisateur qui est pris en tenaille. Dans le premier cas, il n'est pas attentif, il clique sur la première pièce jointe et boum. Et dans le deuxième cas, ça exploite tout simplement des postes qui ne sont pas à jour, que ce soit au niveau du système, du navigateur, mais surtout de tout ce qui est extension. Et donc là, en fait, j'ai un peu de mal à savoir un peu où est-ce que l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire. Et on a bien vu, j'ai assez aimé cet après-midi la conférence de eCentury, sur tout ce qui est technique de durcissement des systèmes Windows avec les app locker, désactivation des PowerShell et compagnie. On voit qu'il y a un potentiel assez important, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'entreprises qui en soient à ce niveau-là de mise en œuvre de toutes ces mesures.
Maintenant, c'est la question que j'ai posée à la fin de la conférence à toute l'Assemblée, et sur 300 personnes, il y a à peine 5 personnes qui ont levé la main, et j'ai demandé qui utilisait ce type de durcissement, ou même juste la moitié des techniques de durcissement qui avaient été présentées.
Alors moi, je n'ai pas levé la main parce qu'on n'a pas du tout de Windows dans mon entreprise, donc... Mais je précise quand même que dans la dernière version Windows 10, ils ont remplacé CMD par PowerShell par défaut. Donc si tu fais un vide de commande, en fait, il te met un PowerShell et il te met CMD. Je ne sais pas exactement comment ça marchait pour l'exécution de script et les choses comme ça, mais...
Ouais, alors Jeff, juste pour rebondir, c'est un des objectifs dans la sélection des papiers hein, qui sont présentés ou des présentations. C'est effectivement qu'il y ait cet équilibre et on essaye qu'il y ait des prises sur la défense. Des fois, on a l'impression que c'est un peu éloigné du botnet en tant que tel, mais en fait, il faut bien répondre à ces enjeux-là concrètement. Et oui, effectivement, je trouve que c'était une bonne conférence qui s'adaptait bien au traitement de ce type de menaces.
Peut-être une remarque sur le côté pratique de la conférence que j'ai bien apprécié aussi par rapport à des remarques qui avaient été faites l'année dernière, c'est que de plus en plus de speakers donnent le niveau, donc le TLP, avant la conférence. C'est quand même relativement important pour des personnes, enfin moi par exemple, qui tweet énormément pendant la conférence.
Alors,
qui reproduit.
Tu peux expliquer en deux mots TLP ?
Alors le TLP signifie Traffic Light Protocol, simplement une convention. Donc il n'y a rien d'officiel, entre guillemets, mais c'est une convention entre les personnes qui font de la recherche en sécurité ou qui échangent des informations. Et on donne un code couleur à une information qui spécifie comment l'information peut être diffusée. Ça va du blanc au rouge, le blanc étant public et le rouge étant restreint. Donc c'est-à-dire qu'on se doit de respecter ce code couleur. Si je te donne une information TLP rouge, en fait, elle reste entre nous. Et tu ne peux pas la diffuser à d'autres personnes en dehors de ce cercle de confiance, si on peut dire. Donc j'ai vraiment bien apprécié, parce qu'il y a certaines présentations où je n'ai rien tweeté, parce que simplement la personne disait, voilà, TLP Red, donc on ne tweete pas, tout simplement.
T'es sûr que c'est pas plutôt parce que tu étais en train de dormir ?
Non, pas du tout, parce que je pense que j'ai quand même pas mal tweeté, et je ne me suis pas endormi, ça a été. Malgré le très bon repas qu'on avait à chaque fois.
Quel est le meilleur tweet ? Moi j'ai adoré celui avec les Teletubbies.
Oui, hein, oui, particulièrement les Teletubbies, c'était très très bien. Ouais.
Nico, tu voulais intervenir?
Oui, non, le TLP, c'est standardisé. Enfin, c'est fait par l'USCERT, il me semble. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versions de TLP, ce qui pose problème, parce que quand il dit TLP Red, il faut qu'il précise si c'est version 1 ou 1.1.
Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est pas si standardisé que ça, puisqu'il y a deux standards, donc de fait.
Alors, je peux déjà vous annoncer une nouveauté pour l'année prochaine. Donc, on donnera des directives aux speakers pour nous indiquer le TLP et l'afficher dans leur talk, et on l'affichera dans le programme.
Excellent.
Voilà, c'est un des retours qu'on a eu et on essaie d'améliorer petit à petit tout ça.
Vladimir ?
Ouais, j'ai bien aimé aussi la conférence, j'ai oublié le prénom de cette jeune fille sur l'arrestation de Avalanche.
Oui, Margarita. Luca d'Europol.
D'Europol, tout à fait, et c'était très intéressant d'avoir ce retour-là. Ça manquait peut-être un petit peu de détails, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont confidentielles, puisque c'est sorti il y a un ou deux jours, je crois.
Oui, l'opération principale a eu lieu il y a deux jours, quasiment exprès pour BotConf.
Ah, oh, c'est magnifique, ça.
J'espère que l'année prochaine, on aura quelque chose sur zone téléchargement.
Non, ce sera de la vieille actualité, tout ça. Et puis, ça n'a pas de rapport avec les botnets, là, pour le coup.
Et puis, comme Xavier, j'avais bien aimé la conférence sur en fait, ceux qui faisaient les botnets pour publier des choses sur Instagram, parce qu'ils avaient dit, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils exploitaient le marché de l'ego, et qu'au final, ils ne volaient de l'argent à personne, ne volaient pas de numéro des cartes bleues, ne faisaient que compromettre entre guillemets des équipements et des routeurs pour ensuite créer des followers sur Instagram afin de flatter l'ego de gens qui voulaient se payer des followers. Mais en fait, c'est pas vraiment un botnet entre guillemets criminel, parce que bon, à part faire un peu de persistance sur des système de traitement de données.
Mais il y a accès
ils ne volent
à
rien,
ils
ne détruisent rien, et donc c'est un petit peu rigolo. Ouais. Et surtout, les personnes disaient que comme justement ces criminels entre guillemets ne volaient rien, bah il y avait peu d'efforts des forces judiciaires.
Ouais, enfin c'est quand même de l'escroquerie. Hein. Ils vendent un service qui est complètement fictif. Puisque tu as bien des followers, mais c'est des faux followers.
Ouais, enfin, comme tous ceux qui te vendent des crèmes de jour ou de nuit, qui te font rajeunir de 20 ans, enfin, c'est
ouais, mais
pareil.
Là, donc là, c'est un peu comme la fraude au, c'est un peu comme la fraude au clic. Hein, c'est effectivement le domaine des botnets qui est d'utiliser la puissance, la capacité d'un grand nombre de machines pour créer de la richesse de façon indirecte par un autre service. Donc là, c'est de la revente de followers, et effectivement ça peut être des clics sur des bannières publicitaires ou d'autres choses. Ça reste anecdotique en nombre de botnets différents. Par contre, c'est intéressant, ceux qui s'y spécialisent, ils vont à fond, ils exploitent, et ça se voyait bien dans la présentation, c'était très travaillé, à la fois l'analyse qu'en ont fait les chercheurs canadiens et puis ce qu'ils ont pu observer.
Et quid des Lightning Talk?
Il n'y en avait aucun de nos limites sécu cette année.
Et moi?
Non, mais il est censé faire un lightning talk, notre
okay.
ami. Il vient pas.
J'étais pas là. Ouais.
Tu peux peut-être en parler. Qu'est-ce que tu as pensé des lightning talks?
Mais moi, j'apprécie toujours parce que, de un, ça permet de découvrir des sujets tout à fait inattendus, peut-être. Enfin, toujours évidemment dans le contexte des botnets, mais des sujets un peu plus exotiques. Et ça permet aussi, je trouve, de mettre le pied à l'étrier de personnes qui n'ont peut-être pas l'envie de se trouver, qui n'ont pas la matière pour avoir un slot de time de 50 minutes, 30 minutes. Et ça permet de mettre le pied à l'étrier, d'avoir une première expérience et de passer un bon moment, en tout cas.
Ouais. Ouais. Alors, c'était moins humoristique cette année. C'était assez sérieux, hein, les présentations qui nous étaient faites là, en 3 minutes. Il faut dire que, effectivement, c'est pas facile de parler face à cette grande salle. Et donc, il y en a un ou deux qui étaient un petit peu émus. Et donc, ils auraient peut-être eu du mal pendant 50 minutes aussi. Et surtout, ça leur permet de reach out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'aller chercher des contacts sur les sujets qui les intéressent et de dire voilà, moi je suis en train de bosser là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse de bosser là-dessus avec moi? Il y en a deux, trois là qui étaient vraiment là, dans cette démarche-là. Enfin, même tous, hein, quasiment, ils étaient dans cette démarche-là. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est qu'ils aient l'occasion de dire bah voilà, j'ai mon petit sujet, on a telle idée, on voudrait bosser là-dessus, voilà mon adresse, et puis venez m'en parler.
Oui, tu parles de reach. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la BotConf est entièrement en anglais.
Yes.
Et il y a aussi quelques personnes que ça peut intimider devoir parler une heure en anglais sur scène.
Bah oui, mais c'est le cas pour la plupart des gens dans le monde entier. Il n'y a pas tellement d'anglophones natifs dans les speakers. Il y en a, bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça. Bah, par exemple, il y avait plein d'hispanisants, il y avait quelques francophones remarqués.
Allemagne.
Allemagne, Israël,
Canada. Ouais, Israël.
Canada. Ouais.
Chinois.
Non. Chinois, oui, ouais, tout à fait.
Vietnamien aussi.
Honnêtement, c'est une langue, c'est pas la langue d'un pays en particulier, c'est la langue qui nous réunit. Hein. Tu connais ça dans le travail, je suppose que tu dois souvent interagir en anglais avec tes collègues.
C'est du contenu très technique.
Ouais,
donc, si un mot sur deux est déjà en anglais à la base, je dis peut-être que voilà, c'est plus.
Et en tout cas, là, pour les jeunes, il y avait pas mal de jeunes, notamment qui étaient présents au workshop le premier jour, le mardi, les ateliers techniques, qui étaient des étudiants de l'université et de l'INSA de Lyon. Et ils se sont intégrés très bien dans la foule et ont pu profiter des ateliers de façon assez approfondie. On a des super retours. Donc c'est aussi ça, rendre accessible aux Français et aux Européens un contenu du monde entier sur ces sujets-là, de pouvoir échanger avec les autres.
Ouais. Et l'année prochaine, Eric?
Alors l'année prochaine, sur le plan du format, on va rester sur des choses similaires avec 4 journées, hein, puisque c'est le format qui se confirme grâce aux ateliers qu'on organise donc le mardi. Ça aura lieu du 5, mardi 5 au 8 décembre 2017 à Montpellier, dans le sud de la France. C'est la première fois qu'on descend autant dans le sud, et en fait L'ambition, pourquoi on bouge, parce qu'il y a quelques conférences qui restent tout le temps au même endroit, c'est parce qu'on souhaite que les gens reviennent d'une année sur l'autre, donc ils viennent du monde entier et la France est belle à visiter. On souhaite aussi rapprocher cette conférence des gens en France. Il y a des universités partout qui n'ont pas l'occasion de se déplacer, des petites boîtes qui n'ont pas l'occasion de se déplacer tout le temps. On est même passé par Paris l'année dernière. Et donc, l'année prochaine à Montpellier. Après, est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés ? On n'a pas encore complètement exploré ce qu'on envisageait de faire. En tout cas, on espère que ce sera un succès au moins similaire. On envisage... En tout cas, notre objectif, c'est d'avoir au moins 350 participants l'année prochaine.
Mais est-ce qu'il y aura des goodies l'année prochaine ? Ça, ça pourrait être une innovation.
Est-ce que les sponsors amèneront des goodies ?
Retour de question.
Moi, j'ai surtout l'impression que Botnet, en fait, c'est juste une excuse pour aller visiter toutes les régions et tester leurs spécialités.
Mais
culinaires.
Non, moi, je les connais, les régions.
Et... Alors, c'est faux parce qu'on est à Lyon et ce midi, on a eu des sushis au buffet. Donc...
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ah ben, j'en ai pas eu.
Alors, Vlad, justement, tu voulais parler des à côté.
Ah oui, alors les à côté, donc les buffets toujours aussi bons, toujours aussi grandioses. Ça, c'est vraiment une des particularités de BotConf, vraiment excellent. Et la soirée à laquelle je n'ai pas pu participer, donc est-ce que vous voulez en dire quelques mots ?
Très bien, très bien. Je dois dire que la soirée était d'excellente qualité, grâce en partie à la qualité du sponsoring.
L'endroit était très joli. L'endroit était très joli.
Et le traiteur
bien,
était ouais. Bien aussi.
Et ouais, ouais.
Petit regret sur le fait qu'on était officiellement censé partir à 11h du soir. On a quand même réussi à tirer jusqu'à 11h40, mais enfin, je veux dire, à 11h40, il y en a qui étaient encore bien chauds.
ouais, c'est une longue soirée. Ça, c'est un aspect pas simple à organiser parce que la salle, elle pouvait pas contenir plus de 300 personnes, donc ça nous fixe une limite. Et puis, il faut un endroit sympa et il faut bien le choisir. Donc, c'était un rôle important de l'organisateur local. Et cette année, c'était Vincent Hinderer de chez Orange Lexi qui a rejoint l'équipe d'organisation. Et on essaye aussi de faire voir la beauté de la ville au travers d'autres regards. Et donc c'est vrai que c'était un endroit un petit peu insolite. L'année dernière, on était à la bibliothèque
François Mitterrand
à Paris, ce qui permettait d'avoir une vue sur Paris qui était assez intéressante aussi. Voilà, l'année prochaine, donc à Montpellier, il va falloir qu'on trouve un endroit. S'il y a des gens qui ont des idées, qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à envoyer un petit tweet ou un petit message à nos limites sécu ou à BotConf, on prendra en compte les idées.
Bon, eh bien le message est passé. Vladimir ?
Oui.
C'est l'heure de la Minute Fail.
Alors, je rappelle le principe de la Minute Fail, qui est de présenter un incident passé de sécurité en prenant un peu de recul avec humour, mais le principe, c'est surtout pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et certains faits ont été un petit peu modifiés. Alors, il s'agit d'une charmante histoire d'audit de configuration. Donc, tout un data center est construit, le réseau est monté pour interconnecter des milliers de serveurs, tout va bien, la prod est lancée, c'est magique, ça marche. L'entreprise décide alors de lancer un audit de configuration des routeurs de cœur de réseau. Un couple de deux gros routeurs de cœur d'un des leaders du marché. Alors malgré les alertes de tout le monde, c'est un non spécialiste qui est choisi et mandaté pour faire l'audit de configuration. Début de l'audit, tout le réseau de tout le data center tombe, donc toute l'infra est écroulée, plus aucun échange commerciaux sur le site de l'entreprise, etc. Panique, incompréhension. Dans le doute, un exploitant appelle l'auditeur et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Et le gars nous répond « Oui, alors en fait, j'ai décidé de récupérer moi-même la configuration sur les routeurs en me connectant dessus, mais ils sont tous en fibre. Et pour se connecter, il faut une SFP. Donc SFP, c'est les petits connecteurs qui font le lien entre la fibre et le routeur. Et oui, moi, j'en avais pas. Donc j'ai vu qu'il y avait une fibre qui était connectée, mais ça clignotait pas. Donc je pensais qu'elle n'était pas utilisée. Donc je l'ai déconnectée, j'ai pris la SFP pour récupérer la configuration. Donc voilà. Et effectivement, c'était le lien de back-to-back entre les routeurs de cœur, c'est-à-dire le lien qui servait à assurer et la supervision mutuelle des routeurs et la bascule du cluster. Donc bien sûr, les deux sont passés en maître, donc s'annonçaient maître sur le réseau. Donc tout s'est écroulé, toutes les routes étaient annoncées des deux côtés. Enfin voilà.
Gros et succès. Pourquoi il n'y avait pas de petite lumière pour dire qu'il y avait du trafic ?
Je ne sais pas.
Une petite étiquette au-dessus.
Parce que la diode était grillée, peut-être.
Non, mais je pense que la personne a juste dit voilà, il me faut une SFP, tiens, il y en a une là, elle est connectée, pff, rien à foutre, je déconnecte et allez, on est parti.
C'est ça le sens pratique.
Un peu bourrin, quand même.
Ouais.
Bon, eh bien, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
À bientôt.